Bon matin à tous, vous allez bien? Bon là, cette vidéo-là m'a mis un peu de pression, par exemple. Hein? Très, très heureux d'être avec vous. Il y en a plusieurs, j'imagine que vous me connaissez déjà. Je suis déjà venu à quelques reprises. En fait, je viens, ça fait comme 3 fois de suite que je viens pendant la retraite de vos anciens. Il fait des beaux mots, mais je pense qu'il ne veut pas me voir, en fait. Mais non, je le prends comme une marque de confiance d'être ici pour vous apporter la parole. Ce matin, on va aller dans un super beau texte, Romains chapitre 13. Donc, vous pouvez déjà commencer à tourner tranquillement, mais juste avant de plonger dans la parole de Dieu, d'avoir la lecture, remettons nos cœurs au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir te connaître au travers les Écritures, au travers ta parole. Je te prie que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, ouvre notre intelligence, qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous donner ce matin. Que ta parole puisse transformer encore et encore, réformer nos cœurs, réformer notre vision du monde, réformer notre vision de la parole. Seigneur, que tu sois exalté, que tu sois élevé au travers de cette prédication, au travers de ce message, mais encore plus, que tu sois appliqué au courant de notre semaine, que ce qu'on reçoit aujourd'hui, Seigneur, on puisse le manifester, l'appliquer, le vivre au courant de tout le reste de la semaine. Par éternel, bénis-nous dans le précieux nom de Jésus, on le prie ensemble. Amen et amen.
Alors, la lecture de ce matin est dans Romains 13, versets 8 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Se revêtir de Christ ». Non, je n'ai pas été original, j'ai juste pris le dernier verset qu'on a lu, puis j'ai dit « ça résume parfaitement l'entièreté du message ». « Se revêtir de Christ », on va voir au travers cette prédication, qu'est-ce que ça veut dire, comment on applique ça. Mais juste avant, lorsque je préparais ce message-là, je priais, je réfléchissais, puis je me disais, OK, sur quoi je vais prêcher? Puis tout ça, pendant que mon ordinateur était ouvert, puis je voyais mon fil Facebook et Instagram qui déroulait avec des gens qui postaient des photos, on a été souper, puis tu sais, les gens qui prennent des photos de leur lunch. Là. Puis là, je me suis dit, waouh, on est tellement une culture obsédé par l'image. Hein? Facebook, ça sert à quoi? À part poster, voici ce que j'ai l'air. Hey, je suis au cinéma, clic. Ça change quoi à qui, ça, que tu sois au cinéma, que tu as été voir un show ou que le restaurant où tu as été manger serve des super beaux steaks? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est, es-tu bon, le steak? Mais on vit dans une culture qui est obsédée par l'image, obsédée par montrer le meilleur de nous-mêmes, même si ce n'est pas vrai. Il y en a-tu ici? Vous avez des enfants, vous avez une famille, puis vous avez déjà pris la belle photo de famille que vous avez mise sur Facebook. Là, tout le monde regarde ça, puis fait comme, « Oh, wow, quelle belle photo! Ah, ça, c'est vraiment une famille parfaite! » Mais ce qu'ils ne savent pas, que vous savez, c'est qu'il y a 42 photos qui mènent à celle-là. Parce que vous vous êtes chicané, vous êtes tiraillé, vous avez dit, « Ah, arrête! » Là, il y avait le plus jeune qui faisait des oreilles de lapin comme ça en arrière, puis tu étais comme, « Arrête de faire ça, place pas de main! » La photo parfaite cache en fait une famille imparfaite. Mais ce qu'on présente, ce qu'on montre, c'est cette perfection, du moins cette supposée perfection. On porte des vêtements, on veut paraître. On s'achète des marques. Hein. Tu sais, des fois, c'est une petite sacoche Louis Vuitton, une Rolex. Et ça devient notre identité. C'est ce qui nous définit. Mais Paul, ici, va nous appeler à porter un vêtement qui est bien plus glorieux que n'importe quel Gucci ou peu importe les marques que vous voulez mettre. Il va dire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul nous montre qu'au travers la foi seule, celle qui nous justifie en Christ, cette même foi-là, elle ne reste jamais stérile. La foi seule qui nous sauve, elle transforme aussi nos comportements. La justification qui mène à la sanctification et la sanctification mène à une vie qui reflète Christ. Paul associe le comportement chrétien à une valeur centrale. Qu'est-ce qui marque que vous avez été touché, transformé par Jésus-Christ? C'est l'amour. Romains 13, versets 8 à 10, je vais le relire pour vous. Il va dire, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul est très clair sur ce point. Il va rendre explicite, puis il va résumer le concept entier derrière la loi en disant « Aime ton prochain comme toi-même. » Amen. Parce qu'il y en a plusieurs, moi y compris. Quand on regarde notre page Facebook, on peut voir qu'on s'aime beaucoup. Parce qu'on se permet des choses pour nous-mêmes. Hein? On va s'acheter des petites affaires. C'est un gros statement que Paul dit. Il dit « Aime les autres comme toi-même. » OK, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement là-dedans? En gros, l'amour chrétien se définit en quatre gros points. Okay, je vais vous faire un crash course, là, un résumé ce matin, rapidement, parce que je vois déjà mon temps qui déroule. Premièrement, l'amour chrétien, c'est un amour qui est enraciné en Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'amour chrétien, ce n'est pas un feeling humain. C'est le reflet de l'amour divin manifesté en Jésus-Christ. Hein, le 1 Jean 4, 19 va nous dire « Nous aimons, car Dieu nous a aimés le premier. » Ce qui veut dire qu'aimer son prochain, ce n'est pas le petit feeling, le petit papillon ou l'envie soudaine d'intervenir. Non, aimer son prochain, c'est surtout quand ça ne te tente pas. Quand tu juges qu'il ne le mérite pas, puis tu dis, ah lui, il ne mérite pas mon amour, il ne mérite pas que j'intervienne, il ne mérite pas que je l'aide, il ne mérite pas que je lui offre mon soutien, c'est à quel moment est-ce que vous croyez que vous devez l'aimer le plus? C'est à ce moment-là. L'amour chrétien, l'amour enraciné en Dieu, est un amour qui est premièrement le reflet de ce que Christ a fait pour nous. Et qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Il a attendu qu'on soit parfait? Non. Il a attendu qu'on accomplisse une liste? Non. Il a attendu qu'on se repente, qu'on aille vers lui de façon repentante. « Ah, Seigneur, je sais que j'ai fait... » Non. Il s'est manifesté dans la chair, il a marché, il a vécu une vie parfaite et il est mort à la croix sans que vous et moi, on lui demande quoi que ce soit. Il l'a fait. Il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. C'est ça l'amour chrétien. C'est un amour qui est enraciné dans « je fais la bonne chose ». Pas parce que la personne le mérite, pas parce que j'ai des petits papillons puis j'ai envie de le faire, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et ça vient exactement à mon deuxième point qui est l'amour chrétien, c'est aussi un amour sacrificiel. La croix est l'exemple parfait de ce que c'est l'amour sacrificiel. L'amour véritable coûte quelque chose. Vous le savez, ceux qui sont, vous êtes en couple, vous savez, être en couple, ça coûte quelque chose. Avoir des enfants, bien qu'on les aime inconditionnellement, ça coûte quelque chose. Puis pas juste de l'argent, là, beaucoup de patience aussi. Oh oui. Ça coûte. L'amour véritable coûte quelque chose. Parce qu'il va toujours chercher le bien de l'autre avant notre propre bien. Servir, pardonner, se donner soi-même, même lorsque l'autre ne demande rien ou que l'autre ne le mérite pas, c'est ça, l'amour sacrificiel. C'est de servir, c'est de pardonner, c'est de se donner, même quand ça te coûte quelque chose. Parce que si tu sers, tu pardonnes et tu donnes sans que ça te coûte quelque chose, on fait la même chose que les païens, on fait la même chose que ceux qui ne connaissent pas Dieu. On aime parce qu'on a quelque chose en retour. Jésus-Christ nous dit, aime, that's it. OK, mais j'ai quoi en retour? Rien. La grâce de Dieu suffit, non? Le fait qu'il nous a sauvés suffit. Christ nous a sauvés, maintenant il dit, va aimer. Va aimer les autres. Va agir pour le bien de ton frère, de ta sœur, du monde. C'est ça l'amour sacrificiel. Troisièmement, l'amour chrétien est aussi un amour concret et actif. C'est pas abstrait, là. Le chrétien aime en action. Amen? Il aime en action. C'est impossible. Messieurs, si vous passez les 10 prochaines années à dire à votre femme « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais que tu ne fais aucune action concrète qui démontre ton amour pour ta femme, ton couple ne marchera pas fort. Les paroles ont besoin de suivre aussi les actions. Mais juste des actions, ça a aussi besoin des paroles. Les deux vont ensemble. Il doit être concret et actif. On doit aimer en action, ça veut dire agir concrètement pour le bien d'autrui, mais aussi en vérité, parce que nous sommes des défenseurs de la vérité. Amen. L'amour concret se manifeste par des actes de miséricorde, de service, de compassion, d'être attentif aux besoins réels de ceux qui nous entourent, mais aussi de la culture qui nous entoure. Parce qu'on peut aimer juste l'Église. C'est quelque chose qui c'est facile. Aimer ses frères, ses sœurs, aimer l'Église, on est ensemble, on est des chrétiens, on croit la même chose, on avance dans la même direction. C'est quand même facile. Ben, il y en a qui vont dire non, des fois c'est difficile d'aimer nos frères chrétiens. Mais c'est quand même plus facile que d'aimer la culture qui dit que nous sommes intolérants, que nous sommes d'un autre temps, que le christianisme n'a plus sa place. Il faut les aimer quand même. Amen. Il faut aimer notre culture qui réfute et refuse l'éthique et la morale chrétienne, qui nous disent que ben non, vous êtes dépassés. La première réaction est la colère. Dieu n'appelle pas à la colère. Dieu nous appelle à aimer et d'aimer concrètement. Ce qui m'amène ensuite à cet amour qui est universel. Jésus nous appelle à aimer non seulement nos frères et nos sœurs, mais aussi nos ennemis. Ça, c'est plus difficile encore. Il y en a dessus, vous dites, oh non, moi, aimer mes ennemis, là, ça, c'est facile. Non. C'est difficile. Mais Dieu nous appelle à cultiver ça. C'est quand est-ce la dernière fois que vous avez prié pour quelqu'un qui vous a offensé? Quelqu'un qui vous a blessé profondément, là, pas juste, il ne m'a pas dit bonjour à l'église ce matin. Quelqu'un qui t'a vraiment fait mal, quelqu'un qui t'a blessé. C'est quand est-ce la dernière fois que tu t'es surpris à prier pour cette personne-là? À réellement l'emmener dans la prière. Puis pas des prières imprécatoires, là. Pas des prières à la David dans les psaumes, « Oh Dieu, brise-lui les dents. » Pas, non. Une vraie prière. Dieu, place ta main sur lui. Dieu, bénis-le. Dieu, fais-lui du bien. L'amour que Dieu nous appelle à avoir n'est pas un amour vindicatif, mais un amour qui agit pour le bien de tous. Et après, si tu me dis, oui, mais là, ça donne quoi aimer nos ennemis? On les aime, on est gentil avec eux, puis après, eux, ils nous font du mal. Oui, mais c'est à qui la vengeance et la rétribution? Qui est le juge final? C'est vous? C'est moi? Non, c'est Dieu. Dieu voit ce que je fais, j'aime le monde, et si le monde, lui, nous déteste en retour, Dieu sera leur juge. Amen. Donc, on peut aimer. On peut aimer notre monde. Mais l'affaire, c'est que je le sais depuis tantôt, je dis plein d'affaires, puis là, vous dites, ouais, mais là, moi, je suis pas là, je suis pas capable, c'est la bonne nouvelle, aucun être humain peut faire ça. On ne peut pas aimer comme Dieu nous le demande. C'est trop gros, c'est trop dur, c'est trop difficile. Parce que notre amour naturel humain, est égoïste et sélectif. Quand j'aime, c'est pour avoir un gain, puis il est sélectif, ça veut dire que je n'aime pas tout le monde, j'aime juste ceux que j'aime. Mais parce que Christ nous a aimés le premier, qu'il nous a sauvés, il nous a libérés pour aimer sans condition. Et c'est ce que je retourne. Est-ce que ton amour est motivé par la reconnaissance envers Christ ou par l'attente d'un retour, hein, un retour sur investissement? Pourquoi est-ce que tu aimes? C'est simple. Le chrétien aime parce qu'il a été aimé le premier. Point. Et Paul, il va continuer. Alors qu'il est là, il parle de l'amour, et là, il va dire la chose suivante. Cela importe, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain, tout ça. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La deuxième chose que Paul va dire, la première chose, hein, c'est que l'amour, déjà ça, c'est l'accomplissement. Il va dire en deuxième temps, le temps est court. Il y a même une motivation eschatologique à l'amour chrétien. Puis là, il y en a qui vous disent, eschatoca quoi? Eschatologique, ça veut dire sur une perspective de la fin des temps. Paul, dans l'amour chrétien, il dit, vous devez aussi avoir en perspective que les temps sont courts, Jésus va revenir. La vie chrétienne, donc, ce n'est pas une sieste spirituelle. Réveille ton voisin en disant, arrête de dormir, hein, ce n'est pas le temps de la sieste. Trop de chrétiens, on vit comme si on faisait une sieste spirituelle en attendant que Jésus revienne. Jésus m'a sauvé, gloire à Jésus, hein, Jésus merci pour le salut. Puis en attendant, ben, on attend ton retour parce que là, moi, ça ne me tente pas là, de me lancer à aller parler de toi à des inconnus qui nous repoussent, qui nous rejettent. Donc, on va rester tranquille assis sur nos bancs d'église. On va avoir du plaisir ensemble. On va louer Jésus ensemble le dimanche matin. That's it, that's all. Reviens Jésus rapidement. C'est ça notre vie? Non. C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Paul ne nous appelle même pas à ça. Il va dire le temps est court. La vie chrétienne, ce n'est pas une sieste, mais c'est une veille active. Ça veut dire quoi, une veille active? Ça veut dire que, admettons qu'il y a un garde sur une muraille, et puis qu'il s'endort. Puis il fait une petite sieste, parce qu'il dit, « Bon là, c'est le chiffre de nuit, je vais faire une petite sieste. » Est-ce que c'est le genre de garde que vous voulez? Non, parce que si vous vous faites attaquer pendant la nuit, ben, lui, il dort. Non, tu veux quelqu'un qui fait une veille active. Ça veut dire qu'il va marcher sur les remparts, qu'il va regarder, qu'il va scruter, qu'il va être actif malgré qu'il est dans une position d'attente. Le garde, il ne se bat pas, il n'attaque pas, il attend. Nous attendons avec patience. On attend le retour de Jésus. Mais de l'autre côté, on n'est pas inactif. Il faut demeurer actif pendant cette attente. Parce que beaucoup vivent comme si le temps était infini. Puis je m'explique. Je vois des gens qui repoussent à demain l'obéissance. Ah, je le sais là, que là, ma vie n'est pas en règle. Je suis avec quelqu'un, mais je ne suis pas encore marié. Mais regarde, Jésus voit mon cœur. Quand on se sera mieux placé, qu'on aura plus d'argent de côté, on va se marier. Puis moi, je dis toujours, vous avez tout fait à l'envers. Pourquoi est-ce que Dieu bénirait quelque chose que tu fais tout croche? Dieu ne veut pas bénir quelque chose qui est tout croche. Fais les choses en ordre. Arrête de remettre à demain, à plus tard, quand je vais avoir plus d'argent, quand je vais avoir ci, quand on va avoir plus de... Non. Tu peux mettre, dès aujourd'hui, ta vie en ordre, parce que le temps n'est pas infini. On n'a aucune idée quand est-ce que Jésus va revenir. Peut-être qu'il va revenir tantôt, peut-être qu'il va revenir dans 10 ans, 5 ans, 100 ans, je ne sais pas. Pourquoi Paul nous appelle à vivre dans l'attente du retour de Christ imminent. Est-ce que tu vis chaque jour comme si Christ pouvait revenir? Est-ce que ton emploi du temps, tes priorités, l'usage de ton argent reflètent cette réalité-là d'une attente concrète du Seigneur. Est-ce que la grande question, c'est est-ce que Jésus fait partie de ma vie au quotidien ou seulement le dimanche matin? Puis, comment tu traites ton dimanche matin? Parce qu'il y en a, tu dis, « Ah, ben là, moi, je vais à l'église le dimanche. » Fine, mais comment tu le traites ton dimanche matin? Est-ce que pour toi, c'est une corvée? Une autre chose à faire de plus sur la liste? Ah, check, je suis allé à l'église, fait que si jamais Jésus revient, je suis safe. Ou est-ce que c'est une réelle joie? Le dimanche matin, peu importe, il neige, il pleut, il fait froid, puis là, bientôt, il va faire fret. C'est plus froid, là, on va tomber dans le fret bientôt. Est-ce que c'est la température extérieure qui régule ton adoration pour Christ? Ou c'est ce que Christ a fait pour toi? Cette vie, ce feu qui donne, qui neige, qui pleut, qui fait froid ou qui fait fret? Moi, je viens à l'église louer le nom de Jésus. Est-ce que c'est ça qui te motive? Paul, il désire faire un wake-up call à ce moment-là aux Romains, en disant que la vie chrétienne ne peut pas être vécue sur le pilote automatique. Tu ne peux pas te mettre sur le pilote automatique, sur cruise control, puis dire, « OK, je vais vivre ma vie comme ça, ça va. » Non. Paul nous appelle à se mettre en action. Ton amour doit être manifeste. On n'est pas dans l'attente passive, on est dans une attente active, une veille active. Sers activement, aime activement. Donne-toi activement, parle de Jésus activement. Trop de gens sont assis et disent, « Ah ben moi je suis chrétien, je m'en cache pas. » Ah mais c'est quand est-ce la dernière fois que tu as vu un de tes collègues de travail qui vivait quelque chose de difficile? Quand est-ce que tu es allé le voir et tu dis, « Hey, je peux-tu prier pour toi? » Puis souvent on le fait, hein? On va entendre quelqu'un qui va dire, « Ah, tu sais, mettons, il est arrivé quelque chose ou mon enfant est à l'hôpital. » Puis on va prier pour cette personne-là dans le lieu secret. C'est correct. Mais c'est quand est-ce que la dernière fois tu as fait le pas de courage d'aller voir cette personne-là et de dire, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que ça surprend dans notre monde d'aujourd'hui. Puis, par expérience, c'est rare que les gens vont dire, non, merci. Les gens sont surpris, sont touchés par, toi, tu n'as absolument rien à gagner de prier pour cette personne-là. Tu n'as rien à gagner? C'est pas ton enfant, c'est pas... C'est autre que poussé par l'amour que Christ a placé en toi, d'aller vers l'autre et de manifester clairement, voici l'amour que Dieu m'a donné. Même si toi, tu ne le connais pas, Jésus, même si toi, tu ne le sers pas activement, je vais quand même prier pour toi. D'un coucou, mon Dieu, aie pitié de toi, puis qu'il te fasse grâce, puis que dans cette grâce, tu puisses le voir, et qu'en le voyant, tu puisses le déclarer comme étant Seigneur et Sauveur. Ça, ma responsabilité à moi, c'est de parler de Christ. La responsabilité de Dieu dans tout ça, c'est de prendre des gens qui sont morts dans leurs péchés et de les amener à la vie. Amen. Et quand on comprend ça, quand on est motivé par ça, soudainement, parler de Jésus devient pas mal plus facile. Voici après comment Paul va continuer. Il va dire « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Paul va opposer deux styles de vie. Les œuvres des ténèbres, débauche, ivrognerie, immoralité, querelle, jalousie. Et il va appeler les chrétiens, il va appeler les chrétiens de Rome, il va appeler les chrétiens du monde à marcher honnêtement, comme en plein jour. L'idée est claire. Ceux qui appartiennent à Christ ne s'habillent plus des vêtements souillés du péché. Amen? Mais on revêtit le vêtement pur que Christ nous a donné. Et moi, ce que je veux poser comme question ce matin, est-ce que tu es encore attaché à des habitudes qui appartiennent aux ténèbres? Parce que ça peut arriver. J'aimerais ça, j'aurais aimé que lorsque Jésus est venu me sauver, qui m'a ouvert les yeux, puis que j'ai vu Jésus, puis que je l'ai déclaré Seigneur et Sauveur. J'ai dit, t'es mon Seigneur et mon Sauveur. J'aurais aimé devenir parfait à ce moment-là. Hein? Y en a-tu que moi? Malheureusement, on continue de pécher. Malheureusement, il y a certains trucs qu'on continue de traîner. Parce que la marche chrétienne, ce n'est pas un claquement de doigts et soudainement tu es parfait. La vie chrétienne, c'est soudainement un claquement de doigts et tu es justifié. C'est différent. Tu es déclaré juste devant Dieu. Ça veut dire que ta punition éternelle a été prise par Christ. Tu es safe. C'est bon. Tu vas y arriver. Tu vas arriver au bout. Mais après, il y a le travail de la sanctification. Nous devons marcher pour être de plus en plus à l'image de Christ. Et pour ça, on doit refuser ce qui appartient aux ténèbres. Refuser ce qui appartient aux ténèbres. Et vous voyez, moi ça m'a quand même choqué, ben pas choqué, mais ça m'a impacté, parce qu'on pourrait croire que Paul va associer aux œuvres des ténèbres les grands scandales. Meurtre, agression, vol. On pourrait dire, oui, tu sais, on est d'accord. Mais aussi, il va dire les querelles, l'amertume, la jalousie. C'est facile quand on regarde et on dit, ben là, moi, j'ai pas des si grands péchés que ça. Hein? Je ne tue personne. Je vole pas. À part une couple de fois là, sur ma déclaration d'impôt, là, c'est pas tout le temps juste. Là. Bon, ça compte pas, soit avec le gouvernement, c'est pas grave. Puis on réalise pas que il n'y a pas de petits péchés. Paul, il va arriver et il va dire, les querelles, c'est les œuvres des ténèbres. L'amertume qui grandit dans ton cœur parce que t'es amer, parce que les choses vont pas comme tu veux, puis ça aurait donc pas dû être de même. La jalousie, parce que ton frère qui réussit dans ses entreprises ou ton ami qui, lui, enfin, s'est trouvé quelqu'un pour qui se marier, puis toi, ça fait longtemps que t'es seul, puis là, il y a cette certaine forme de jalousie qui commence à grandir dans ton cœur. Ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont des poisons subtils qui t'éloignent et qui te ferment les yeux à la magnificence de ce que Christ peut faire dans ta vie. Trop souvent, on néglige tout ce que Dieu a fait de bon dans nos vies en regardant tout ce qui ne va pas bien dans nos vies. Alors ça, c'est la fameuse. Est-ce que le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide? Quand je m'arrête honnêtement, je fais un arrêt. Puis je me dis, je commence à regarder ce que Dieu a fait dans ma vie. Est-ce qu'on peut s'entendre que collectivement, là, pour la grande, grande majorité d'entre nous, il y a beaucoup plus de bien que de mal? Dieu a fait pas mal plus de bonnes choses. Et admettons, toi, tu te dis, non, moi, Dieu, là, il n'a jamais rien fait pour moi. OK, fine. Mais il a fait une chose, du moins. Une chose qui est sûre et certaine. C'est qu'il est allé mourir à la croix pour toi. C'est déjà pas mal. Si Dieu ne ferait que ça pour moi, si Dieu m'avait dit, c'est la seule chose que je vais faire dans toute ta vie, Jim, je suis mort à la croix, je sauve ton âme, pour le reste, je te laisse à toi-même. Ma bouche dirait quand même, gloire soit l'Éternel. Ma bouche dirait quand même, Jésus est Seigneur. Parce qu'il ne me doit rien. Christ me doit rien, Dieu me doit rien, mais il m'a tout donné, alors que je ne demandais rien, alors que j'étais ennemi de Dieu. Lui, il m'a sauvé. Lui, il nous a sauvés. Amen. Alors, notre regard pessimiste sur, ah oui, mais l'autre, la jalousie, les querelles, l'amertume, oui, mais Dieu, lui, il ne me donne pas mon miracle que je cherche maintenant. Regarde à tout ce qu'il a fait. Celui qui marche avec Jésus ne porte plus la condamnation du péché. C'est déjà énorme. On est enfin libre et on peut marcher comme des gens libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de nous-mêmes se mettre sous le joug du péché en tolérant ou en justifiant le péché qu'on a dans nos vies. Dieu nous a libérés, là. Il a enlevé toutes nos chaînes. Là. Puis très souvent, là, on s'en va au magasin puis on magasine nos propres menottes. On magasine nos propres boulets qu'on attache à nos chevilles, puis après ça, on marche pour dire, « Ah, Seigneur, ma vie est dure. » C'est sûr qu'elle est dure. Tu t'es toi-même magasiné un boulet. Tu dis, « Seigneur, je me sens comme j'ai un fardeau. » Oui, tu t'es toi-même mis un fardeau sur tes épaules, parce que Dieu, lui, il t'a libéré. Mais on se met des fardeaux de performance. Je vais être assez, je vais être suffisant. Dieu, il dit, arrête. La seule chose sur laquelle tu peux te revêtir, c'est la justice que Dieu nous a acquise, l'amour qu'il nous donne, la piété qu'il produit en nous, la sainteté qui émerge de cette piété, le désir de connaître encore plus Jésus, de le servir encore plus, de s'abandonner à lui. Et finalement, quand on se revêtit de Christ, puis qu'on réalise tout ce qu'il a fait pour nous, on arrête de chercher notre propre intérêt pour regarder à l'intérêt du royaume des cieux. Amen. C'est ce que Dieu produit en nous, c'est ce qu'il suscite. Et je termine rapidement, il me reste 2 minutes 52, on va y arriver. Le verset 14, le clou du spectacle. Il va dire, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voici le sommet, le clou de son message, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas seulement se revêtir de ses qualités. Hein. Il fait pas juste dire « Soyez, ayez les mêmes qualités que Christ. » Non, il va dire de se revêtir de la personne de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais appelé à trouver ton identité même, ta sécurité en Jésus. Ça veut dire que peu importe ce que tu as fait ou ce que tu as été avant, ça n'a plus d'importance. Parce que quand tu es uni à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Moi, je pourrais très bien dire, « Ah, moi, j'étais un athée, anti-christianisme, j'attaquais la foi. » Mais je vais m'identifier comment? Un ex-athée ou un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, ce que j'ai fait avant, ce que j'ai dit avant, n'a plus d'importance. Oui, ça l'a forgé comment je suis allé à Christ. Mais aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Mon identité n'est pas sur ce que je fais, comment je le fais, qu'est-ce que j'accomplis. Moi, je ne crois pas que je vais avoir un tableau de chasse rendu au paradis. Là. Puis quand je vais en rentrer, Dieu va arriver et va faire « Bravo, Pasteur Jim, tu as converti 200 personnes. » C'est pas ça, ça n'a aucune importance. Mon identité n'est pas dans ce que je fais. Mon identité, elle est en Christ et en Christ seul. C'est une union qui est vitale. Galates 3, 27 va nous dire, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Amen. Se revêtir de Christ, c'est de refuser de chercher son identité dans nos œuvres, dans nos possessions ou dans nos relations. C'est chaque matin se rappeler, « Je ne vis plus moi, mais Christ qui vit en moi. » Et ça demande un certain renoncement, un renoncement quotidien à la chair, une dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que ton identité n'est pas dans ce que tu accomplis. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu te tues au travail. Et ça s'adresse principalement à messieurs. Je sais qu'il y a plein d'hommes. Vous travaillez super fort. Amen. Vous travaillez trop fort. Moins amen. Et là, vos femmes vous donnent un petit coup de coude. Oui, tu as le droit de travailler fort, mais il faut quand même que tu t'occupes de ta famille. Souvent, on va trouver notre identité dans le travail. Mais il arrive quoi le jour où tu perds ton travail? Il arrive quoi le jour où tu te blesses au travail puis tu ne peux plus faire ton travail? Ton identité tombe. Il y en a qui vont chercher leur sécurité, leur valeur dans leur compte de banque ou dans la taille de leur REER ou de leur CELI ou de leur investissement. Et leur paix est dépendante de la fluctuation boursière. Y en a-tu, c'est ça? Non, lève pas ta main. Lève pas ta main. Ton identité n'est pas dans ce que tu possèdes. Parce que Christ nous a dit, ne cherche pas les trésors hein, sur cette terre où la rouille peut les dévorer, mais cherche ce qui est du royaume des cieux. Ta valeur, ton identité ne vient pas de la taille de ton compte de banque, ni de ce que tu conduis. Ça aussi, ça s'adresse un peu plus à messieurs. Hein, tu le sais, que qu'est-ce qui est plus sexy? Une Mustang ou ta Voyager, là, cette place pour emmener ta famille? C'est sûr que la Mustang est plus sexy. Là, okay? Mais qu'est-ce qui est plus utile? Ta Voyager. Et trop souvent, on cherche notre identité dans les choses qu'on possède. Voici ce que je conduis. Voici ce que je porte. Vous savez, Moi, ça me fait toujours rire. Une des premières choses, c'est quoi une des premières questions que vous posez à quelqu'un que vous rencontrez pour une des premières fois et que vous ne connaissez pas trop? Ça va être quoi la première question? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi on pose ça comme question? Parce que la personne qui va dire, moi, je suis un chirurgien cardiaque. Là, tu vas avoir envie d'être son ami. Ouais, tu vas avoir envie d'être son ami parce qu'il y a du prestige. Mon ami, c'est un chirurgien cardiaque. Ça fait beau dans un souper de famille. Pas mal plus beau que si tu dis, hey, j'ai rencontré une personne, mon nouvel ami, là, c'est un menuisier charpentier. Là, il y a des gens qui vont faire comme, je me sens visé. Sois béni, moi j'aime les charpentiers menuisiers. Tous mes enfants sont dans la construction, so. Mais qu'est-ce qui est plus glamour? De dire, mon ami, c'est un docteur. Ou dire, mon ami, c'est un électricien. Pourquoi? Ça dépend. C'est complètement absurde d'établir la valeur de quelqu'un par le métier qu'il a fait. C'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Mais on est fait comme ça. Notre culture nous a arrangé d'une certaine façon qu'on crée une hiérarchisation des gens selon leur accomplissement, selon leur travail, selon ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont étudié. Vous savez, la plupart du temps, quand les gens me demandent « Hey Jim, tu fais quoi dans la vie? » Puis je dis « Je suis pasteur. » Vous savez que dans le monde, 95% des gens ne savent absolument pas ce que je fais dans la vie. Là. Ils sont comme « Hein? » Mais tu fais quoi? Fait que moi, à la blague, je dis, moi, tout ce que je fais de mes journées, je lis la Bible puis je prie. C'est tout, je fais rien d'autre, moi. Les gens, ils ont moins tendance à être mes amis. Après, ils sont comme, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur? Ta sacoche Louis Vuitton ou le sang de Christ qui a été versé pour toi? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Ton beau diplôme qui a pris des années à accrocher à ton bureau ou le corps de Christ qui a été brisé à la croix pour toi? Qu'est-ce qui a plus de valeur dans ta vie? À quoi tu octroies le plus de valeur? C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui a le plus de valeur sur cette terre. Et lorsqu'on réalise qu'on peut revêtir la personne de Christ, ça vient absolument tout changer. Parce que mon identité devient l'œuvre de Jésus à la croix. Mon identité devient le royaume des cieux qu'il nous a promis. Mon identité vient s'asseoir sur les relations intimes que je peux avoir avec le Dieu créateur de l'univers. Qui peut faire ça? Alors, je donnerais volontiers toutes mes possessions, tout ce que j'ai, si tout ça me menait à me détourner de Christ. Je dirais, Seigneur, enlève tout. Enlève ma santé, enlève mon auto, enlève... Ah. Parce que c'est ça la réalité des choses. C'est que quand on pense réellement, et je termine avec ça, quand on pense réellement à ce qui nous éloigne de Dieu. Si tu veux savoir si c'est ça qui prend le centre de ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce que je dirais à Dieu le jour où il me l'enlève? Qu'est-ce que je dirais à Dieu, ou qu'est-ce que je vais dire à Dieu le jour où il va m'enlever ce que je chéris le plus? Et ça, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. C'est pourquoi Paul il dit, je suis habitué de vivre dans la richesse, dans l'abondance, et dans la pauvreté. Paul, il ne s'est pas attaché au bien matériel, il a dit, je n'ai pas de besoin. Il dit, ce que j'ai vraiment juste de besoin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Il est suffisant. Amen. Et ça, c'est la base. Et alors que les musiciens vont venir me rejoindre, je veux terminer avec ça. Au travers de ce texte-là, qui n'est quand même pas un très long texte, qui est un texte assez simple, Paul nous montre que la vie chrétienne, par la foi seule, n'est pas passive, mais active. Amen. Aimer sans fin, vivre dans l'urgence du retour de Christ, rejeter les œuvres des ténèbres et se revêtir de Christ. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un fardeau à porter par nos propres forces. Parce qu'on pourrait porter le fardeau et dire « Wow, attends, je dois être un ambassadeur de Jésus, wow, c'est lourd à porter. » L'affaire, c'est que Christ est celui qui nous a aimés le premier et celui qui revient bientôt. C'est lui qui nous libère des ténèbres. C'est lui qui nous remet le vêtement de justice sur nos épaules. Alors, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il nous demande, c'est que par la foi seule, que nous puissions marcher dans la vie nouvelle qu'il nous a acquis. Jusqu'au jour où il va revenir. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas de faire mille et une accomplissements. Ce n'est pas d'implanter 300 000 églises. Ce qu'il nous demande individuellement, à chacun de ses enfants, c'est soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles à Christ, soyez fidèles à sa parole. Marchons humblement et ne nous attachons pas aux œuvres des ténèbres, mais revêtons-nous de Christ qui, lui, nous donne notre vraie identité. Amen. Alors, levons-nous ensemble alors qu'on va aller prier en terminant. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom que, alors que nous étions perdus, morts dans nos péchés, ennemis de Dieu, toi, Seigneur, tu es quand même venu pour te sauver. Tu es quand même venu pour nous libérer, pour racheter nos âmes, pour recevoir sur ta vie la colère du Père, accroché à la croix, souffrant le martyre du calvaire. Père, tu pensais à nous. Pas à nous en tant qu'humanité générale, mais tu pensais à moi individuellement et à chaque personne individuellement. Tu avais leur nom dans tes pensées. Et lorsqu'on réalise que ta mort, elle n'est pas une mort universelle dans le sens où elle est individuelle. Tu es mort pour chacun d'entre nous. Seigneur, ça m'amène à courber la tête, à voir l'indignité de mon être à recevoir ton pardon et ton salut. Seigneur, je le sais plus que tout autre que je ne suis juste pas digne de recevoir ta grâce. Je le sais, Seigneur, que je n'ai absolument rien fait pour mériter le salut que tu m'as acquis. C'est pourquoi, Seigneur, je marche humblement vers toi, avec toi, en déclarant une chose simple. Jésus est Seigneur. La vérité qui doit être imprimée profondément dans nos cœurs. Jésus-Christ est Seigneur. Alors que le monde va nous emmener là où il nous emmènera, dans les tempêtes, dans les vallées, quelquefois sur les montagnes de la célébration et de la joie. Mais peu importe la saison de nos vies, de nos églises, de nous-mêmes personnellement, il y a une vérité qui reste essentielle et centrale. Jésus est Seigneur. Tu es souverain de toutes choses. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous guider dans les bons comme dans les mauvais jours. Que tu puisses nous guider lorsque nous sommes dans la joie et la célébration de voir l'œuvre que tu accomplis et nous accompagner lorsque notre dos est courbé par le poids de nos responsabilités, le poids de nos échecs, le poids de notre impiété. Mais que toi, Seigneur Dieu, tu puisses nous rappeler que tu es Seigneur et souverain et que dans la tempête, tu nous relèves la tête en disant « Tu es mon enfant ». N'oublions jamais qu'il est mort pour nous. N'oublions jamais qu'il a subi la croix pour nous. Alors, Père éternel, on se remet devant toi. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Et c'est ensemble que l'Église, ton corps, s'élève. Et élève un chant d'adoration vers toi. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié ensemble. Amen.
Amen. Amen.